Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast du 4 avril 2021 du cabinet Vogel et Vogel. La concurrence à l'épreuve des génériques, voilà le sujet qui retient notre attention dans ce nouvel épisode. En effet, quand le brevet d'un médicament qu'on appelle Princeps, c'est-à-dire le médicament original protégé, arrive à expiration, le fabricant de ce médicament peut être tenté, en attendant la protection de nouveaux procédés par de nouveaux brevets, de bloquer l'arrivée des médicaments génériques sur le marché. Et alors, sous couvert de règlements amiables de litiges relatifs à un brevet, le fabricant du médicament Princeps conclut avec les fabricants de médicaments génériques des accords de, je cite, « pay for delay », report d'entrée en français, par lesquels ces fabricants de médicaments génériques acceptent de ne pas les lancer tout de suite sur le marché en échange d'une compensation financière. Les juridictions européennes ont été saisies de la validité de ces accords au regard des règles de la concurrence de l'Union. Dans sa décision Generics UK du 30 janvier 2020, la Cour de justice a condamné de tels accords sur le double fondement de abus de position dominante et désentente. Elle a en effet jugé deux choses. Premièrement, que ces accords s'inscrivaient dans une stratégie d'éviction constitutive d'un abus en soi. Et deuxièmement, que ces accords constituaient une restriction de concurrence par objet. C'est-à-dire qu'ils étaient par nature tellement susceptibles de restreindre la concurrence que la démonstration de leurs effets anticoncurrentiels n'avait pas besoin d'être rapportée. Plus récemment, la Cour a confirmé sa position en rejetant, le 21 mars dernier, les pourvois formés par plusieurs fabricants de Princeps sur de telles affaires. Alors pour sanctionner les pratiques collusoires résultant de ces accords sur le fondement de l'article 101, paragraphe 1 TFUE, la Cour tout d'abord affirme qu'il existe une concurrence potentielle entre les parties, et ensuite se prononce sur la qualification de restriction par objet. Commençons par étudier en quoi la Cour considère qu'il y a concurrence potentielle. Car les fabricants de Princeps prétendaient, pour dénier aux accords de règlement amiable la qualification d'accord anticoncurrentiel, que les entreprises de générique ne constituaient pas des concurrents potentiels. La Cour rappelle que, pour apprécier l'existence d'une concurrence potentielle, les autorités doivent certes démontrer qu'il existe des possibilités réelles et concrètes que l'entreprise absente du marché intègre celui-ci, mais qu'elles ne sont en revanche pas tenues ni d'examiner si les voies d'accès au marché identifiées sont effectivement viables et praticables, ni d'établir que les concurrents seraient entrés avec certitude sur le marché et qu'une telle entrée aurait été couronnée de succès. Donc sur un marché dépourvu de barrières insurmontables à l'entrée comme le marché dont on parle ici, l'existence d'une concurrence potentielle entre le fabricant de Princeps et le fabricant de générique suppose uniquement que le fabricant de générique ait entrepris des démarches suffisantes pour accéder au marché et qu'il ait ainsi fait peser sur le fabricant du Princeps une pression concurrentielle, même si ces démarches n'aboutissent pas en temps voulu. Or ici, les fabricants de génériques avaient non seulement entrepris d'importantes démarches et engagé des investissements considérables en vue d'entrer sur le marché, mais plus encore, certains d'entre eux avaient même obtenu, ou étaient sur le point d'obtenir, une autorisation de mise sur le marché, ce qui va au-delà de ce qui est exigé pour caractériser une concurrence potentielle. Pourquoi cela ? Parce que la Cour adopte une conception extensive et subjective des éléments attestant d'une concurrence potentielle que viendrait restreindre l'accord en question. Il faut savoir que tout indice d'une concurrence à venir des fabricants de génériques est pris en compte, que cet indice soit antérieur, contemporain ou même postérieur à la conclusion de l'accord de règlement amiable. Et il suffit qu'un tel indice soit perçu par les parties au moment de la conclusion de l'accord et les ait incités à le conclure. Une autorisation de mise sur le marché en fait donc naturellement partie. Pour résumer, la Cour a considéré qu'il y avait concurrence potentielle, notamment du fait d'investissements considérables des fabricants de génériques pour entrer sur le marché, mais également du fait de l'obtention d'autorisation de mise sur le marché. Une fois l'existence de cette concurrence potentielle caractérisée, la Cour explicite en quoi l'accord de règlement amiable, assimilé à un accord de report d'entrée, portait tellement atteinte à cette concurrence potentielle qu'il pouvait être qualifié de ce qu'on appelle « restriction de concurrence par objet », notre seconde partie. Avant tout, une mise en garde sur la portée de cet arrêt qui peut prêter à confusion. Le détenteur d'un brevet peut toujours conclure avec une entreprise qu'il estime être un contrefacteur un accord de règlement amiable dans la mesure où cet accord n'excède ni la portée ni la durée de validité restant à courir de ce brevet. En effet, la conclusion d'un tel accord constitue simplement l'expression du droit de propriété intellectuelle de son titulaire. Mais il n'est pas exclu qu'un tel accord, a priori licite, s'avère constituer une restriction de concurrence par objet s'il présente un degré certain de nocivité pour la concurrence, peu important alors qu'ils poursuivent d'autres objectifs légitimes. Dans cette affaire, la Cour considère que les accords en cause relèvent de ce second cas pour plusieurs raisons, obéissant toutes à la même logique. Les deux parties à l'accord y trouvaient leur compte. Non seulement le fabricant de médicaments Princeps, car l'accord lui permettait de transformer l'incertitude quant à l'issue de ses actions en contrefaçon en la certitude que les fabricants de génériques n'entreraient pas sur le marché, mais également les fabricants de médicaments génériques, car l'accord leur permettait, entre autres, d'éviter les conséquences financières d'une entrée potentiellement illégale sur le marché et de se voir généreusement indemnisés. Mais également parce qu'un tel accord réduisait à rien la concurrence des fabricants de génériques et aboutissait à l'augmentation des prix au détriment des consommateurs finaux. Merci d'avoir écouté le podcast du cabinet Vogel et Vogel. Retrouvez cet article et tous les autres sur notre site vogel-vogel.com.